C'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras, François Porcheron.
Madagascar, à l'ouest, le canal du Mozambique et le géant voisin africain, à l'est, l'océan Indien. Mélange de cultures et d'ethnies, la grande île est malade de sa pauvreté. Les collines pelées par la déforestation en témoignent. Après un vol direct de Tananarive, la capitale, à Toulehar, dans le sud-ouest, nous sommes remontés le long du canal du Mozambique sur près de 200 km direction Morombe. Après des heures interminables de pistes poussiéreuses ponctuées de majestueux baobabs, de cactus géants et des villages des Vezo, un peuple de pêcheurs nomades autrefois, nous arrivons enfin devant la porte du bureau d'Acite, une ONG de protection de l'environnement 100% malgache.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Ange Raboutousson.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes responsable de la communication et du développement durable de l'antenne de Acite, ici, dans la région de Morombe.
Oui, c'est bien ça.
Et alors, l'objectif de l'association qui est implantée ici, c'est de faire en sorte que les communautés qui vivent dans l'aire protégée que vous avez déterminée protègent leurs ressources naturelles.
L'objectif, c'est de mettre en place une aire protégée avec l'implication de la communauté locale.
Alors expliquez-nous quelle est la surface de cette aire protégée et quel type d'écosystème elle abrite.
Elle a une surface de 408 000 hectares et elle a quatre types d'écosystèmes, les rivières, les mangroves, les forêts et puis les lacs.
Et donc vous passez votre temps à sillonner ces 400 000 hectares. Il faut quand même souligner que c'est très difficile de se déplacer ici. Hein. 50 km, ça prend tout de suite 2 heures parce qu'il n'y a pas de route, ce sont essentiellement des pistes. Vous êtes à moto. Et comment est-ce que vous êtes accueilli par les communautés quand vous venez les voir et que vous leur proposez de faire attention à la protection de leur environnement pour justement faire partie de cette aire protégée?
C'est un travail de longue haleine. Parce que nous, on est ici depuis 8 ans au début, donc il faut d'abord mettre en place la confiance mutuelle entre les communautés.
Mais qu'est-ce que vous leur dites quand vous venez pour la première fois dans les villages? Parce que vous vous adressez souvent à des gens qui ne savent pas lire, pas écrire, qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas forcément extrêmement instruits. Et vous leur demandez de changer leurs habitudes, de pêcher autrement, de cultiver autrement. Donc qu'est-ce que vous leur dites au départ?
Au départ, donc, on leur dit que votre vie, vos vies dépendent de l'existence des ressources naturelles. Donc, il faut que vous préserviez ces ressources naturelles afin que vous viviez bien à l'avenir. Et ces ressources naturelles aussi, ce seront les héritages que vous allez laisser à vos descendants.
Quelles sont les principales batailles que vous menez au sein de l'association pour que les communautés changent de comportement?
C'est surtout les méthodes d'exploitation de ces ressources naturelles. Parce qu'auparavant, donc, ici, les gens, ils font n'importe quoi. Hein. Ils utilisent des matériels non réglementaires, ils font des cultures sur brûlis. Donc, c'est à ça qu'on les a sensibilisés pour qu'ils utilisent d'autres méthodes.
Et ça marche. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller dans un village pour le constater.
Donc le premier village où nous allons nous rendre, c'est un village au milieu de la forêt, c'est le peuple Mikéa.
Le peuple Mikéa est connu pour être un peuple qui a très longtemps été isolé, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années ici, il n'avait quasiment jamais eu de contact avec le monde extérieur.
C'est bien ça. Le contact avec le monde extérieur s'est limité. C'est pourquoi il est un peu quand même difficile de faire une approche avec eux au début, mais quand la confiance s'est établie, maintenant donc c'est très facile de les informer, de sensibiliser et puis de donner des renforcements des capacités à ces gens-là.
Vous les avez prévenus de notre arrivée?
Oui et non, parce qu'ici il y a le problème d'insécurité, donc on n'est pas sûr d'arriver dans un endroit désigné auparavant.
C'est-à-dire, quel problème d'insécurité?
Ça, tout le monde le connaît. Hein. Il y a le grand banditisme qui sévit dans ce partie sud de Madagascar. Et donc, les gens même, ils se cachent dans la forêt pendant la nuit. Donc, même si toi, tu le préviens, tu n'es pas sûr qu'ils seront là.
Donc là, on a combien d'heures de route?
3 heures de route, 2 heures. La route est assez bonne, mais... la dernière heure, donc, on va entrer dans la forêt, donc la route sera très mauvaise.
C'est le moins que l'on puisse dire puisque les pneus de notre 4x4 n'y ont pas survécu. À peine rentré dans la forêt, le premier pneu éclate. Une moto nous dépasse, mais elle ne pourra pas prévenir le village de notre retard pour cause de panne électrique. Vous allez l'entendre, notre rencontre avec les Mikea s'est finalement bien passée. Mais en repartant, un deuxième, puis un troisième pneu crève. Pas de réseau, nous roulons sur les jantes et ce n'est que de longues heures plus tard, à la lueur de la lune et des portables, qu'un réparateur aidé de quelques villageois remet notre voiture sur roue pour braver l'interdit ultime dans cette zone d'insécurité, rouler de nuit jusqu'à notre hôtel. Avons-nous fâché les ancêtres des Mikea, ce peuple isolé et doté de pouvoirs mystérieux comme on nous l'a raconté? En tout cas, nous, on y croit. Donc là, nous sommes assis sur un tapis dans le village de...
Le village de Chatamaland, dans le district de Mourumbé, commune rurale de Bassi-Bassi.
Et là, on est au cœur de la forêt.
On est au cœur de la forêt et en même temps aussi, il y a un lac ici qui s'appelle Chatamaland. C'est ce lac qui a donné le nom du village. Et le peuple qui sont ici, ce sont des descendants des Mikea. Leur vie dépend de ressources naturelles de l'endroit.
Alors là, nous sommes assis sur un tapis sous un arbre. Ça tombe bien, comme ça nous sommes à l'ombre et on est entouré de toute la population du village. Et on a été accueillis par le président de l'association du village. Bonjour monsieur.
Rabava, Faling Fuku, Yavian Lungunairewito.
Il dit qu'il est vraiment content avec votre venue. L'environnement chez nous, c'était plus comme avant. Parce qu'avant, il n'y a pas de conservation, il n'y a pas de protection du tout. Il y a un grand laisser-aller. Mais actuellement, donc, nous, on fait des travaux de conservation et de protection. Et du même coup, donc, les ressources qu'on veut, on les trouve dans la forêt ou dans le lac.
Quelles sont ces ressources dont vous avez besoin?
Dans notre forêt, donc, on trouve les bois pour construire nos maisons. On trouve aussi les plantes médicinales. Parce que ici, chez nous, les docteurs ou les centres hospitaliers, ça se trouve très loin de chez nous. Il y a toutes sortes de plantes là qu'on utilise pour notre aliment dans nos forêts. Il y a ce qu'on appelle balou, il y a les babous, il y a les tafoulous, il y a les anguilles.
Qu'est-ce qui a changé dans vos comportements entre avant et maintenant? Qu'est-ce que vous faisiez avant que vous ne faites plus maintenant?
Avant, donc, nous, on empoisonne les poissons avec le lard. Le lard, donc, c'est une plante lactée. Et si on met le lait là, dans l'eau, toute la biodiversité dans l'eau se trouve empoisonnée. Donc avant, nous, on utilise ça pour avoir du poisson. Et avant aussi, on fait des têtes. Quand on brûle la forêt pour planter, il y a plus de 2 ans, donc aussi, qui font le têtes.
Est-ce que vous diriez aujourd'hui que cette préservation de l'environnement elle est importante pour vous parce que vous vivez au milieu de la forêt, donc vous dépendez majoritairement de ce que la nature vous offre?
Bien sûr que nous, on dépend de la forêt. C'est pour ça qu'on voulait le protéger. Et actuellement, donc, à cause de nos activités, on a ce qu'on veut là de la forêt. On peut puiser donc nos besoins dans la forêt.
Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui à préserver pour vous?
Le plus important donc pour nous, pour la conservation, il y a la forêt bien sûr, mais surtout aussi le lac. Parce que nous, on a un lac, et dans le lac, il y a des poissons. Ces poissons, donc, si on a besoin d'argent, on les pêche et puis on les vend.
Alors, qu'est-ce que vous avez ici comme activité génératrice de revenus aujourd'hui ?
Parmi les activités génératrices qui existent chez nous, donc, il y a l'élevage de caprins et il y a aussi la culture du riz.
Alors, est-ce qu'on peut... Par exemple, aller voir les chèvres avec une personne qui s'est lancée dans l'élevage et qui en tire des revenus.
Oui, on peut.
Très bien. Alors on y va tous ensemble. Salam.
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 Alors là, Ange, on est devant deux personnes qui se sont lancées dans l'élevage de chèvres.
Oui, ce sont deux personnes membres de la communauté qui sont bénéficiaires de la mise en place de l'activité génératrice de la filière chèvre. Farallahi et puis Resoul.
Farallahi, qu'est-ce qui vous motive pour élever des chèvres ?
Ce qui me motive, ce sont des bestiaux qui donnent naissance à beaucoup de petits. Je peux les vendre et je peux avoir de l'argent.
Et ça se vend combien une chèvre ?
Les grands chèvres, ça se vend à 30 000 lariars. Mais ça aussi, c'est selon la saison. Il y a des périodes où ça se vend, disons, jusqu'à 50 000 lariars ou même 60 000, 70 000 lariars.
Entre 10 et 20 euros la chèvre. C'est vrai que ça rapporte quand même pas mal d'argent. Et là, vous en avez combien aujourd'hui ?
Moi, j'ai 10 chèvres.
Et est-ce que, par exemple... Grâce à l'argent que vous gagnez avec les chèvres, vous n'avez plus besoin de couper le bois pour faire du charbon et aller le vendre ?
Donc ce don du FFM nous a bien motivés et c'est ça qui nous aide donc à quitter nos anciennes activités. Nous, actuellement, on est conscients que les activités qu'on entreprend actuellement donc dans la conservation, la protection de l'environnement, c'est aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et c'est ça aussi ce qui nous motive.
À l'association, vous assurez un suivi scientifique. Est-ce qu'on a constaté dans la zone que la forêt reprenait, qu'il y avait plus de poissons dans le lac ?
Il y a un suivi scientifique deux fois par an. Des équipes qui viennent de la capitale, mais ici aussi sur place, on a notre responsable de conservation qui font ce suivi. Et le suivi aussi est fait avec les associations. C'est ce qu'on appelle des suivis communautaires. Donc le poisson a repris leur taille parce qu'il n'y avait pas trop de poissons. Le deux, ça n'existe plus avec les activités de l'association. Donc ça a diminué les pressions qui s'exercent sur les poissons.
Donc il y a plus de poissons dans le lac à côté. Et la forêt aussi va mieux, il y a plus de biodiversité.
Oui, c'est mieux. Il y a des types de lémuriens. Divers types d'ailleurs, c'est pas seulement une espèce mais beaucoup d'espèces parce que les gens ne mangent plus de lémuriens. Il faut signaler qu'auparavant les gens mangent de lémuriens et il paraît que c'est bon. Moi j'ai pas encore mangé. Oui.
Et j'espère que vous n'en mangerez jamais.
Jamais, parce que moi je suis dans une association qui conserve ce truc là. Je ne vais pas manger mes enfants.
Fandarana vokarin'ny Asit Madagasikara sy ny miaro eto amin'ny radio fifehy Morombe.
Salama iaby. Inty ary ny tohian'ilay resadresaka tamin'ny herinandro.
Ange, vous faites aussi des émissions de radio ?
Oui, pour renforcer donc l'information et les sensibilisations comme support, on utilise aussi donc des émissions radiophoniques qu'on diffuse deux fois par mois.
Et vous parlez de quoi dans ces émissions ?
On informe les gens pour le message qu'on voudrait passer. On sensibilise aussi les gens donc sur la manière de conserver et de protéger leur environnement. Et surtout, la radio aussi, c'est une manière de faire des séances de renforcement des capacités par radio. Donc on invite quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine qu'on parle là.
On entend l'émission de radio derrière nous, là. Qui fait cette émission ?
C'est nous, les réalisateurs. C'est nous, à la Cité Madagascar. Le responsable, c'est moi, mais quelquefois aussi, il y a mes collègues qui réalisent des émissions.
Et vous informez aussi les gens sur les lois ?
Bien sûr. C'est aussi une des raisons d'existence de cette émission. Il faut les informer sur les lois. Il faut les informer comment on doit faire. Par exemple, pour avoir un permis de couple, là, où sont toutes les stades qu'il faut passer pour avoir ce permis, quelque chose comme ça.
Pour qu'ils connaissent bien les lois de gestion des ressources naturelles. C'est important parce qu'il existe plein de lois à Madagascar, mais la population souvent ne les connaît pas.
Bien sûr, étant donné que la plupart de nos communautés, donc, ce sont des analphabètes, donc il faut qu'ils connaissent les lois qui régissent l'exploitation de ces ressources naturelles.
Et vous avez des retours sur ces émissions ? Vous savez qui les écoute ?
Bien sûr, nos animateurs de zone, donc, ils font aussi des suivis de l'impact de ces émissions auprès du public cible. Et surtout aussi, les émissions, ça sert à dénoncer les gens haut placés qui font des pressions sur les communautés locales. Donc ça aussi, c'est une des raisons d'existence de cela, parce que ça, ici, chez nous, c'est monnaie courante. Quand quelqu'un, par exemple, coupe des arbres, quand les communautés font ce qu'ils doivent faire, ces gens-là, ils disent que moi, j'ai un ami ministre, moi, j'ai un oncle général. Donc, ces agissements-là, on les dénonce par le biais de ces émissions.
Vous savez quel est l'impact des émissions de radio que vous faites ?
Oui, on connaît l'impact parce qu'il y a les animateurs de zone donc, qui font le suivi auprès du public cible. Est-ce qu'ils ont écouté ? Est-ce qu'ils ont bien compris, par exemple ? Et on fait des suivis réguliers donc, auprès des auditeurs cibles. Oui. Ange, nous avons fait plusieurs heures de piste pour quitter le village des Mikéa et là, nous sommes sur la côte. On est où exactement ? Actuellement, donc, on est dans un village au cœur de la mangrove qui se trouve à l'est du village où nous étions dernièrement et aux environs à 60 km à vol d'oiseau.
À vol d'oiseau, mais en voiture d'homme, c'est beaucoup plus, c'est quelques heures de piste et on a été bien secoués. Alors ici, donc, on est assis sur un tapis face à la communauté qui nous écoute et nous regarde. On va interroger le président dans quelques instants. La spécificité de ce village, c'est que c'est un village de pêcheurs.
Oui, ce village se divise en deux. Il y a les pêcheurs d'un côté, mais quelquefois aussi, ces pêcheurs, ils deviennent des cultivateurs pendant la période de culture du riz. Mais spécifiquement, donc, ce sont des pêcheurs.
Vous travaillez depuis longtemps avec eux ?
Depuis l'année 2005.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le président de l'association du village ?
Oui, parce que comme c'est une association démocratique, depuis la création, c'est maintenant le troisième président qui est en place. Et celui qui est en place actuellement, c'est M. Rafidson. Il est très dynamique.
Bonjour M. Rafidson.
Bonjour.
C'est vous donc le président de l'association. Qu'est-ce qui a changé dans ce village depuis 2005, depuis le travail avec Acite?
Le changement, c'est surtout à propos de l'utilisation des ressources, parce que depuis qu'Acite nous a accompagnés, donc nous, on ne détruit plus les arbres de mangrove.
Pourquoi vous coupiez les arbres avant ?
Nous coupons les arbres auparavant. C'est une des sources d'argent. Parce que vous savez, la vie, elle est très difficile. Donc, on est obligé de couper les bois pour les vendre, pour avoir de l'argent.
Et donc, maintenant, vous ne coupez presque plus la mangrove. Alors, vous avez remplacé cette activité, cette rentrée d'argent, par quelle activité ?
Ce sont les sites Madagascar qui nous ont aidés là quant à l'amélioration de notre rentrée d'argent parce qu'ils nous ont dotés des matériels de pêche, des pirogues et actuellement aussi ils nous ont dotés de matériel pour fabriquer de sel à ciel ouvert.
Là, la saison sèche, c'est en ce moment, vous allez relancer l'activité du sel, c'est-à-dire récupérer, grâce aux motopompes que vous offert l'association, l'eau de la mer et la filtrer et la mettre sur des pans de terre prévus spécialement à cet effet pour que l'eau s'évapore et que le sel puisse être récupéré et vendu. Et par rapport à la pêche, vous disiez que l'association vous a donné des filets, des pirogues. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de pêcher?
Auparavant, donc, nous, on pêche même les petits poissons. Mais avec les matériels réglementaires, à mailles réglementaires qu'Acite nous a donné, donc, on a un peu plus de production. La taille de poisson, elle est beaucoup plus grande, donc la valeur marchande aussi s'est élevée.
Là, les auditeurs n'ont pas l'image puisqu'on est à la radio, mais on est dans un endroit absolument magnifique où il y a les rizières d'un côté, la mangrove de l'autre. Là, le riz est presque mûr. C'est une des activités de cette communauté, Ange, depuis toujours, ou là aussi, c'est vous qui l'avez impulsé comme activité génératrice de revenus?
Non, cette communauté aussi a deux principales activités, l'une en mer et l'autre dans la rizière. Et nous aussi, on les a dotés des matériels pour la culture du riz. On a donné des bâches, des barriques. Parce qu'auparavant, la communauté, elle est obligée de louer la basse pour battre le riz. Mais actuellement, donc, elles ont des basses. Et en même temps, elles peuvent louer aussi. La communauté peut faire louer les basses. Et c'est une source d'argent.
Alors, je comprends bien que Acite vous a accompagné non seulement pour créer des activités génératrices de revenus, mais ils vous ont aussi donné du matériel pour la pêche, du matériel pour la culture du riz. Donc tout ça, c'est très encourageant. Mais est-ce qu'au-delà de ces dons, vous avez l'impression dans votre village qu'il y a une meilleure conscience de l'importance de préserver l'environnement pour le futur ?
Oui, parce que la communauté aussi a comme principale activité l'information et la sensibilisation. Et moi, je peux vous dire que même les enfants qui têtent encore commencent à être sensibilisés de la nécessité de protéger l'environnement.
Alors, qu'est-ce que vous dites à votre communauté, par exemple? Là, on a un micro RFI, vous pouvez sensibiliser plein de pays dans le monde. Faites-nous partager un peu ce que vous dites à votre communauté pour les sensibiliser à la protection de l'environnement.
Quand on fait donc des campagnes d'information et de sensibilisation, la première chose qu'on fait, c'est on éduque les gens à ne pas utiliser des matériels non réglementaires qui détruisent les ressources naturelles. On leur dit après que l'environnement, c'est pas seulement pour nous qui vivons actuellement, mais c'est aussi pour nos enfants et pour nos petits-enfants.
Donc, vu l'activité d'Acite, hein, on l'a entendu en tout cas à travers ses reportages dans les communautés. Maintenant, on l'a dit au début de l'émission, vous êtes assez peu nombreux, vous manquez un petit peu de moyens, est-ce qu'on peut le dire ?
Si, on peut le dire qu'on manque de moyens, parce qu'actuellement, donc, on a seulement deux bailleurs de fonds. qui travaille avec nous pour une année. Il y a le Fonds français pour l'environnement mondial et puis il y a aussi le Fonds pour l'air protégé, la biodiversité de Madagascar. Donc on peut dire vraiment qu'on manque de fonds.
Alors que votre travail est essentiel ici, on le voit bien quand on se promène dans la région, il y a des lacs, il y a des forêts à protéger, il y a un chantier colossal de protection de l'environnement. Qu'est-ce qui est le plus urgent pour vous? Si on vous disait vous avez le choix entre différents bailleurs, entre différents financements, différentes aides, quel est le plus urgent?
Le plus urgent, donc, c'est d'augmenter le nombre des agents de contrôle qui vont travailler avec les communautés pour faire les suivis communautaires. Ça, c'est le plus urgent. Et le plus urgent aussi, c'est les activités alternatives. Activités génératrices de revenus pour ces communautés, donc pour limiter les accès aux ressources naturelles.
Comme on l'a très bien entendu dans les reportages précédents. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre activité et toutes vos coordonnées seront sur la page internet de l'émission www.rfi.fr.
C'est moi qui vous remercie et toute l'équipe d'Acite de Murumbe vous remercie et même toutes les communautés vous remercient d'avoir pensé à nous à faire un reportage comme ça. Merci à nous et Cécile.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Demain, nous continuerons notre aventure malgache. Quelques dizaines de kilomètres plus au sud, nous serons à Andavadoc où l'ONG Blue Ventures aide les pêcheurs vaisseaux à gérer durablement leurs ressources naturelles. Un reportage coproduit avec Mamie Harissou de la radio M3FM à Majunga. À demain donc, même planète, même heure.